وسلم ما أنا عليه وأصحابي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Il y en a qui sont un petit peu allergiques au khutbah. Lorsqu'on entend un khutbah comme ça en arabe, c'est que le bayan va être long. Rassurez-vous, hein. Il ne va pas être très long aujourd'hui par rapport au thème. Le thème, il découle de source. On va l'aborder en quelques minutes, inshallah. Et puis, comme hier, comme avant-hier, aussi avant-hier soir, on va essayer de faire un petit bilan de la journée d'hier. Et puis, on va essayer d'avancer dans la journée d'aujourd'hui. Vous savez, moi, aujourd'hui, là, pendant les quelques minutes que j'ai, je peux dire que on va essayer de mettre un peu de gaieté dans ce monde brut. Pendant ces quelques jours qu'on a passés ensemble, et parmi les objectifs qu'on s'était fixés, il y en avait un, le premier, qui était d'identifier ensemble les fléaux, les problèmes de la jeunesse musulmane et de la jeunesse en général, et d'en discuter. On a essayé de le faire. On a essayé d'en discuter. Maintenant, la question coule de source. On parle de problèmes. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ci. Haram, interdit, Jahannam, enfer. Le Shaukat a dit attendre, sabab. Mais que faire? Qu'est-ce que tu me proposes? Quelle solution en cela? Si tu me dis que tout est interdit, je veux bien. Mais que dois-je faire en tant que jeune musulman? Qu'est-ce que tu me proposes? Eh bien, ça coule de source. On a commencé à le voir pendant ces trois jours, et aujourd'hui donc, on peut considérer comme la petite synthèse. Lorsque tout va mal comme aujourd'hui, si on analyse la société d'aujourd'hui, on peut dire que, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont mal. Si on regarde l'aspect financier, c'était la crise. C'est encore la crise. Si on regarde l'aspect économique, eh bien, ça fait longtemps qu'on parle de crise. Au début, on nous avait dit que c'était une crise conjoncturelle, de passage. Maintenant, tout le monde comprend bien que c'est une crise structurelle. C'est une crise qui était là et qui s'est installée. C'est la récession. Si on regarde notre famille, l'aspect de la famille, eh bien, on voit que la famille, qui avant était pour nous un refuge, qui aurait dû être pour nous un refuge, maintenant, la cellule familiale même n'existe pas, elle a explosé, elle a implosé. Maintenant, on entend de tout. Famille monoparentale, mononucléaire, recomposée, on entend de tout. La famille qui était justement le socle de cette société, eh bien, la référence à la famille n'est plus là. Si on regarde l'aspect social, c'est la même chose. Regardons notre société. On a essayé de le scruter pendant ces trois jours, et on a bien vu quel est le résultat, quel est le constat. Encore une fois, on ne pointe pas du doigt. Encore une fois, on n'accuse personne, mais on constate. Eh bien, lorsque tout va mal, lorsqu'il y a problème, comme on le dit souvent, dans le malheur comme dans le bonheur, eh bien le musulman, il a une référence. Le musulman et la musulmane, il a cette référence-là qui ne le quitte jamais. Lorsque tout va mal, mon frère, lorsque tout le monde te quitte, lorsque tout le monde te lâche, lorsque tu te sens lâché, comme parfois dans des crises d'adolescence là, eh bien l'adolescent, il se dit que personne ne me comprend. Tout le monde me lâche. Mes parents ne me comprennent plus. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Eh bien, à ce moment-là, à qui se fier? À qui se confier? Eh bien, dans ces moments terribles-là, comme les moments dans lesquels on vit, eh bien, dans ces moments-là, on doit savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. Qu'il y a quelqu'un qui m'aime plus que ma mère elle-même. Qu'il y a quelqu'un qui m'entend lorsque je lui parle. Qu'il y a quelqu'un qui m'entend lorsque je suis dans ma chambre, lorsque je pense à lui. Eh bien, je m'entends. Qu'il y a quelqu'un qui est là, qui me voit. Qu'il y a quelqu'un qui entend le problème. Lorsque je lui parle, eh bien, elle m'entend. Mais c'est Allah. C'est Allah. Et la référence à ce Allah, qui est justement la résultante de cette réunion de 3 jours. Notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette relation, ce ta'alluq, ce nisbat avec Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut surtout pas croire que cela est réservé à une frange moins jeune de la population. Dans les ahadith, dans les paroles du prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un, un jeune, lui disait que qui sait quoi demain? C'est quoi? Je n'ai pas dit c'était moi. Ça a été une manière que tout le monde entend le hadith, le Coran, etc. C'est une manière qu'on puisse comprendre. Et bien, dans les hadiths, dans les paroles du prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à ces jeunes. Comme vous, Inch'Allah, comme moi. De ces jeunes qui se retournent vers Allah. Vous savez, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, la relation vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose de très beau. Mais il l'est encore plus lorsqu'il s'agit d'un jeune. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est dans la force de l'âge. Parce que, eh bien, toutes les tentations nous assaillent. On l'a bien vu pendant ces 2 jours. Toutes les tentations nous entourent. Eh bien, dans ces moments-là, si je me retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, à ce moment-là, vous allez le voir, on va le voir. C'est quelque chose de terrible pour nous. Dans le bon sens du terme. Maintenant, on change le terme aussi. Les anciens diront que terrible, c'est pas bon. Dans notre lexique à nous, chez les jeunes, terrible, c'est super. Pourquoi retourner vers Allah? Pourquoi se diriger vers Allah? Parce que, eh bien, on aura compris une chose. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes les choses que je vois et que je ne vois pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les choses concrètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il aura créé les choses abstraites. Allah jalla wa ala, il a créé les choses, les sentiments aussi. Tous les sentiments qu'on a, qu'on ressent. Parfois, on ne sait pas ça. On ne l'entend pas assez. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé ces sentiments. Allah subhanahu wa ta'ala, il nourrit tout le monde. C'est dans le dire. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nourrit tout le monde. Tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, notre Dieu, notre Rab, c'est lui qui est en charge, c'est lui qui gère tout ce monde. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala qui le gère. Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup de qualités, beaucoup d'attributs. Allah, il a beaucoup de qualités, beaucoup d'attributs, beaucoup de capacités. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus capable que n'importe qui. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul capable. Eh bien, moi, en tant que musulman maintenant, comment dois-je réagir avec cet Allah? Comment est-ce que je dois réagir à l'esprit d'Allah lorsque j'ai vu à un moment ou à un autre de ma vie « Ash'hadu an la ilaha illallah » Eh bien, je me suis dit que j'atteste, je témoigne, j'en suis sûr qu'il n'y a rien d'autre à part Allah. Le seul être capable d'être adoré, digne d'être adoré, digne d'être retourné vers lui, eh bien, c'est Allah, mon Rabb, mon Dieu. Celui qui peut subvenir à mes besoins. On a plein de besoins. On a plein de besoins. Et bien, le seul qui puisse subvenir à mes besoins, c'est Allah. Le seul qui puisse faire quelque chose pour moi, c'est Allah. Et bien, ça, je le sais. La ilaha illallah. Rien d'autre à part Allah. Lorsque j'ai su cela, et je me dis que maintenant je suis dans un dilemme. Je suis dans une société où on l'a vu depuis deux jours, adorer Allah c'est dur. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas facile. Parce qu'on a plein de tentations. Et que faire? Comment est-ce que je dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, Allah lui-même nous montre comment faire. Et lorsqu'on a lu « Ashhadu an la ilaha illallah » on l'a pas lu tout seul. On a lu « Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh » Et j'ai attesté aussi. J'ai témoigné aussi. Je l'ai dit haut et fort, avec le cœur et avec la langue, que lorsque je veux adorer Allah, lorsque je vais adorer Allah, eh bien je vais l'adorer comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a adoré. Parce que moi, mon exemple, moi, mon modèle, moi, mon icône, ce n'est pas les joueurs de foot. Moi, mon modèle, ce n'est pas la chanteuse ou le chanteur. Moi, mon modèle. Et le seul modèle qui puisse être modèle, parce qu'il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour être modèle, eh bien, c'est le prophète alayhi salatu wa salam. Lorsqu'on aura compris cela, on aura tout compris. Lorsque j'aurai compris cela, j'aurai tout compris. Vous savez, c'est simple. Aujourd'hui, on est dans une société rationnelle. Vous êtes en train de me dire quelque chose, vous êtes en train de me dire qu'il faut faire ça, 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 mais pourquoi donc? Explique-le-moi. On va essayer de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit, et ça on le sait, s'il y en a un qui doute, s'il y en a un qui n'en est pas sûr, qu'il lève le doigt, on va en discuter. C'est lui qui nourrit tout le monde. C'est lui qui donne toute chose à tout le monde. Ça c'est clair. Premier élément. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne toutes les choses à tout le monde. À lui appartient toutes les choses. S'il y en a un qui doute là, il lève le doigt, on va en parler. Premier élément de notre analyse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a plein de qualités. Ça c'est Allah. De notre côté, moi. Parce que je parle de ma relation avec Allah. Il y a Allah. Et il y a moi. Et de l'autre côté, moi je suis muhtaj. Moi je suis totalement dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'ai plein de besoins. J'ai plein de besoins. Vous demandez à quelqu'un qui est en troisième, ce que tu désires le plus, mon cher, va me dire que là, si je gagne mon brevet, c'est bon. Mon brevet de collège, si je l'ai là, c'est bon, super, top. C'est tout ce que je demande. Voyons ce monde. Je ne suis pas trop bien pour moi. Eh bien, à la fin de la première, mon bac de français, il arrive. C'est, je n'ai pas trop révisé. Il faut juste que je gagne la moyenne dans mon bac de français. Après, c'est le bac. Après, c'est la suite. C'est l'épaule. Vous savez, à chaque fois, à chaque moment de notre vie, on a le besoin qu'on croit que c'est le plus grand besoin de notre vie. Et ça, c'est l'être humain. Donc, à chaque moment de notre vie, on a un besoin. Et après, c'est quoi? On est choqué de la vie. Après, mais c'est le mariage. Après, c'est l'enfant. Après, c'est le suivi des enfants, l'éducation des enfants, etc. À chaque moment de notre vie, on a de grands besoins. Des besoins tellement grands que nous, relativement, on nous dit que celui-là, il est le plus grand de mes besoins. Il faut absolument que je remplisse ces besoins-là. On a plein de besoins. Deuxième élément de l'analyse. Premier élément, c'était quoi? Que à Allah appartient toutes choses. Les choses qu'on voit, les choses qu'on ne voit pas. Les choses concrètes, les choses abstraites. Deuxième élément de notre analyse, c'est que moi j'ai plein de besoins. J'ai besoin de beaucoup de choses. Vous me suivez là? C'est bon? Troisième élément. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, théoriquement, je lui dois adoration. Je dois l'adorer. C'est mon pacte, c'est mon âme avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque moi j'ai dit la ilaha illallah, rien d'autre par Allah, Muhammad Rasulullah, rien de quoi, c'est que là je me dois d'adorer Allah. Eh bien Allah par exemple, Allah il est Samir et Allah il est Basir. On prend ces deux exemples. Allah il entend tout et Allah il voit tout. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il entend tout, ça veut dire qu'Allah, il m'entend lorsque je parle, à haute voix, lorsque je crie dans le micro, Allah, il m'entend. Lorsque je chuchote, Allah, il m'entend. Lorsque je pense, Allah, il m'entend. Lorsque je pense en français, Allah, il m'entend. Lorsque je pense en créole, lorsque je parle en créole, Allah, il m'entend. Lorsque je parle en chinois, en japonais, en maoré, en comorien, en tout, Allah, il m'entend. On en est convaincu. On en est convaincu. C'est une des croyances fondamentales du musulman. Allah, il m'entend à chaque instant de ma vie. Ça, on a cette conviction. Parce que j'ai dit que rien d'autre à part Allah, Allah, il est capable de toutes choses. Allah, il m'entend. Allah, il est Samir. Allah, il est Basir. Allah, il me voit. Allah, il me voit. Et s'il faut le répéter, on va le dire. Sachant que Allah, il me voit à chaque moment de ma vie. Allah, il me regarde. Allah, il me voit. Lorsque je suis dans la pièce noire, pas de lumière, je peux faire ce que je veux. Allah, il me voit. Lorsque je saute le mur de la madrasa pour aller là ou là-bas, les moulissas ne sont pas là, Allah, il me voit. Parce que les parents ne me voient pas, Allah, il me voit. Troisième élément de la vie. Maintenant, ce que je veux vous proposer, c'est, allons essayer d'être adultes. Et allons essayer d'être intelligents. Et adultes responsables. Si je sais pertinemment qu'Allah il me voit, si je sais pertinemment qu'Allah il m'entend, le jour où je faute, le jour où je commets un péché, le jour où je désobéis à Allah, c'est que justement, lorsque je suis en train de le faire, je savais qu'Allah il me voit, je savais que à Allah appartient toutes choses. Je sais très bien, moi, que, eh bien, je dois demander à Allah. Prenez un enfant, un petit enfant. Un petit enfant. Lorsque, eh bien, le samedi, il a besoin de 10 euros. Petit enfant comme ça, hein, il a besoin de 10 euros de son papa. Eh bien, depuis lundi, il commence mon papa. Il commence à préparer son papa. Depuis le lundi. Le lundi, son papa arrive du travail, il commence à faire un jour, là. Mardi, il va, comme Martin Boutier. Mercredi, on va garder pour notre carrière à la fin de l'école. Regarde. Jeudi, pareil. Vendredi, pareil. Samedi, arrive. Ah, 10 euros. Là, on va pas réfléchir que mon garçon, il a été excellent cette semaine. Terrible. Top. 10 euros, non, non, non. 10 euros, pas assez pour eux. Prends 20 euros, frère. Pourquoi? Parce que le maman, l'enfant, il aurait été intelligent. On va essayer de voir s'il aurait été plus intelligent. Parce que lui, il savait pertinemment que j'ai besoin de mon papa. Et il a préparé son papa depuis lundi jusqu'à samedi. Samedi, il a cherché les récompenses, les in'am. Il demande à Allah, il demande son papa. Son papa du cœur. Eh bien nous, nous qui savons pertinemment que c'est Allah qui donne toutes choses, est-ce que nous avons réussi à satisfaire Allah? Est-ce que nous réussissons au jour le jour à faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala? Demander à faire plaisir à Allah. Ce qu'Allah me demande de faire, et je le fais. Parce que j'ai besoin d'Allah. Parce que je suis totalement dépendant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, il me voit. Parce que Allah, il m'entend. Mais le jour où je commets une faute, le jour où je faute, qu'à ce moment-là, eh bien, j'ai peut-être oublié qu'Allah me voyait. J'ai peut-être omis le fait qu'Allah ne m'entendait. Parce que si je le savais, si c'était inscrit dans mon cœur, si c'était inscrit dans mes actions à chaque moment de ma vie, si je raisonne comme ça, je ne peux pas voter parce que Allah me voit. Je ne peux pas voter parce que Allah m'entend. Je ne peux pas dire des bêtises. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas le faire parce que là, Allah m'entend. Et moi, j'ai besoin d'Allah. Je ne peux pas mettre Allah en colère. Je ne peux pas aller à l'encontre des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que j'ai besoin d'Allah. Et comme à Allah appartient toute chose, c'est QFD. J'ai besoin d'Allah, c'est un ordre. Et cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, on va la créer quand? On va la créer où? Deux choses. On va terminer. C'est que ce nisbat, cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la plus importante des choses, et on regarde comment les sahaba, comment est-ce que les compagnons du prophète d'Allah ont fait? Vous savez, l'islam n'est pas révélé aux anciens. L'islam, ça c'est moi un terme, je suis vraiment désolé, hein, c'est pas pour être péjoratif. L'islam n'est pas réservé aux vieux. La jeunesse a une grande part, a une part active dans l'islam. Lorsqu'on regarde les sahaba, ce sont les compagnons du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on voit qu'au départ du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, eh bien, Aisha radiallahu ta'ala anha, elle avait 18 ans, selon certaines réalités. Ali radiallahu ta'ala, c'était quelqu'un de très jeune. Ali, on en parle tellement. Hazrat Ali radiallahu ta'ala, il était très jeune. Le Sahaba radiallahu ta'ala, avec l'espérance de vie qu'il y avait à l'époque, lorsqu'on ouvre un livre de Sirat, on s'aperçoit que Parce que moi je parle Sahaba, je pense que c'était un vieux boutrou pour s'absorber un kabab blanc là. Eh bien non. Ce sont des jeunes. C'était des jeunes. C'était des très jeunes. Et ce sont eux qui ont fait vivre l'islam. Lorsque l'islam est fait vivre, lorsque la communauté musulmane vit, bouge avec la jeunesse, eh bien, il y a une autre portée. Et où est-ce que la communauté musulmane va bouger? D'où va jaillir cette étincelle? À l'époque du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cela ne se faisait pas à l'extérieur. Et aujourd'hui aussi, si on veut faire bouger la communauté, si on veut faire avancer notre communauté, eh bien cette étincelle ne va pas sortir de dehors, ne va pas sortir du club, ne va pas sortir du club de billard, ne va pas sortir du stade de foot. Ça va arriver là-bas, effectivement, mais ça va jaillir de la mosquée. Ça va jaillir de la mosquée. Dans la mosquée, tout se vit, tout se crée. Dans la masjid, tout se crée. Nous avons un exemple. L'exemple du prophète, al-salam. Et nous regardons sa masjid. Comment sa masjid était, les gens disent, était vivante. Elle était vraiment vivante. Vivante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masjid bougeait. La masjid vibrait. Parfois, on dit, les commentateurs disent que le stade vibre. Ça veut dire que quand je bougeais sur le moteur, hein, c'est la table. Mais nous, ce qu'on demande, nous, ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on aura compris l'importance de notre relation avec Allah, et bien que la mosquée vibre, que la mosquée vibre, avec l'apport de cette jeunesse tellement importante. Lorsqu'on aura compris que tout va partir de cette mosquée-là, lorsque j'aurai compris que la résolution de mes problèmes à moi et des problèmes de la communauté vont justement jaillir de la masjid, de ma relation avec la masjid, avec la mosquée. Parce que je fréquente cette masjid régulièrement, parce que j'ai un problème, parce que des problèmes existent dans ma vie, au jour du jour, parce que j'ai besoin d'un conseil, et là j'ai un choix à faire. Ça, je vais chercher ce conseil-là, dehors, là-bas, dans le marché, dehors du collège, dehors du lycée. Ou bien, je viens le voir, ce conseil. Je viens chercher ce conseil-là dans la masjid. Vous savez, la masjid, ce n'est pas seulement un endroit culturel. Ce n'est pas seulement ça. La masjid, la mosquée, ce n'est pas seulement un endroit où on doit venir. On n'a pas le droit de parler. On a uniquement le droit d'adorer Allah, de faire la salat et de repartir. Non. L'adoration d'Allah dans son sens large du terme, Parce que je vais venir dans la médine. Eh bien, la médine est aussi un endroit social. La médine, c'est aussi un endroit où on se retrouve. La médine en islam, la mosquée en islam, c'est aussi un endroit à haute vocation culturelle, que les générations se retrouvent. Que moi, jeune, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de savoir où aller. Là, je me retrouve dans ce dilemme-là, que faire? Eh bien, dans la mosquée, que je puisse retrouver mes anciens, mes frères un peu plus expérimentés, que je puisse lui demander, que je puisse lui parler, qu'on puisse partager nos expériences, et que je puisse prendre conseil avec lui. Ça aussi, c'est un des rôles de la mosquée. Dans la cité, la mosquée, a un rôle social énorme. Si on enlève cela de la mosquée, si on enlève cela, eh bien, on enlève tout l'âme de la mosquée. La mosquée ne va plus vibrer. À nous maintenant d'emmener cette vie, cette âme, cette vibration de la mosquée, dans la mosquée, par justement notre rapport. Lorsqu'on va fréquenter la mosquée tous les jours, lorsqu'on va s'asseoir entre nous, lorsqu'on va parler, il ne s'agit pas de parler, parce que je vois qu'il y en a qui me regardent avec des yeux. Il ne s'agit pas de parler comme on parle depuis 3 jours, là, chacun se fait des points, on va commencer à discuter, non, c'est pas ça. C'est d'échanger dans la mosquée, dans un cadre rigoureux. Toujours être rigoureux, c'est pas de parler, discuter à droite à gauche, c'est pas ça, hein. C'est bien compris, c'est vraiment bien compris. Surtout, on va pas dire que oui, mais c'est qui cause, n'est pas bon de masser, mais c'est qui cause de bon de masser, c'est pas c'est pas, hein. C'est que un lieu d'échange fort en islam, c'est la mosquée. Je vais terminer sur une chose par rapport à cette mosquée. C'est que, on s'est bien compris que nous, on a vocation, Inch'Allah, à entrer au paradis. On a prétention à aller au paradis. On a cette intention à aller au paradis. Et que, eh bien, il faudra satisfaire Allah. Il faudra faire les actions que Allah nous demande de faire. Parmi ces actions, l'action la plus importante, qui ne nous demande pas des efforts insurmontables, mais qui demande juste une rigueur dans sa vie, c'est la salat, c'est la prière. Vous savez, la première des choses sur laquelle, à propos de laquelle, on va parler le jour du jugement, pas dans l'imam, c'est interdit. À propos de laquelle on va discuter le jour du jugement, je vais être questionné sur quoi? Sur la salat, sur la prière. Et cette salat-là, c'est la solution à nos problèmes. Hier, il l'a dit, inna salata tanha ala al-fahsha wa al-munkar. Que, eh bien, j'ai yakin, j'ai conviction sur le Coran. Moi, j'ai une conviction totale, complète sur le Coran. Ce que le Coran me dit, bien c'est vrai. Que le Coran me propose une solution. Que, s'il y a des problèmes dans ta vie, si tu as des mauvaises habitudes, viens à la mosquée, fais la salat, prends les bonnes habitudes de la salat, et bien tu vas voir que ça va te changer. Hier il l'a dit, l'intervenant l'a dit, il y avait un voleur, il volait, et j'ai appris. Et à chaque fois, le prophète d'Allah s'est fait la passe de ce qu'il faisait la salat. Ce qui fait la salat. D'accord? Cette salat-là, cette prière dans notre vie, c'est pas parce que nous sommes des grands, nous autres, c'est parce que je suis musulman. C'est juste parce que je suis musulman. La salat, c'est le guide. Parce que je suis musulman, je fais la salat. Chose que je voulais vous proposer, c'est que là, tous ensemble, lorsqu'on commence tout seul, parfois c'est dur. Quittez-vous les grands bisous, vous pouvez un gros mot, ça, vous quittez. Mais chaque fois, c'est la même chose avec les jeunes. Parce qu'on veut laisse pousser un petit peu ma barbe, c'est pas fait là. Lorsque je commence à, parce que j'ai pris conscience, je commence à mettre mon pantalon un peu au-dessus de la cheville, et bien, à ce moment-là, et bien, les autres, les amis, mes camarades, ça t'arrive bien, j'ai entendu ça, c'est une réflexion. Pas méchant, ça me blesse. Je commence à venir sur la tâche. Lorsque je commence à dire la masée, il n'y a pas que la couleur, il y a la peur là. Et lui, j'ai besoin de quelque chose. Le seul qui peut me donner quelque chose, c'est Allah. Ce que je vous propose, c'est qu'au sortir d'ici, dès qu'on arrive à la maison, deux choses. La première, c'est qu'on garde ce contact très bien, on est respectueux du jour, trois jours dans la masée. Et c'est pas un bon endroit, hein. Masjid, c'est un endroit où on se rappelle. J'ai vu un frère hier, un jeune, qui me disait que, à part le mois de Ramadan, ça fait exceptionnellement vraiment très longtemps qu'en dehors du mois de Ramadan, il fait la salade de Masjid. Jeune. Pas très jeune, hein. C'est pas un présent, c'était plutôt 23 ans. Je vous dis que, à part le mois de Ramadan, je n'arrivais même pas, je n'envisageais même pas qu'il puisse y avoir autant de monde dans une salat, dans une prière à 5h15 à la masjid. Ça ne passe presque jamais à la tête qu'effectivement il y a une prière, il y a une salat à la masjid, à la mosquée à 5h15. Peut-être que je n'ai plus souvenir, c'était quand la dernière fois. Pas le mois de Ramadan, mais c'était. Je n'ai plus souvenir, c'était quand la dernière fois que j'ai venu à la masjid. C'était la salade de Masjid. Alors qu'on l'a vu, ça c'est ma relation avec Allah. C'est le b'a-ba même de ma relation avec celui dont je suis totalement dépendant. J'ai besoin de lui. Ce sont les fonds d'aller vers lui. Donc je disais donc, dès qu'on va retourner notre vie cet après-midi, on va essayer de faire ensemble, tous ensemble. Mais pas un, on était à 10, on était à 20, on était à 30. Tous ensemble, on essaye de rester accrochés à cette fois-ci. On va faire cet effort-là, Inch'Allah. On est à beaucoup de jeunes. Hein. Faire en sorte, je regarde bien sur ma liste, on est à 10. Que dès qu'on a tout l'Asr, Saint-André, Le Port, Saint-Paul, Saint-Denis, etc. Que, eh bien, j'étais à 10 sur la ligne, ou à 20, ou à 30, ou à 40. Que dès que j'arrive dans ma ville, que les anciens commencent à se gratter la tête, là, c'est ça, pour un 2, maxi pour un 2, au 4 en l'air, c'est un plat. Parce que 30 jeunes dans une matinée, c'est très peu. 30 jeunes. En permanence. Chaque fois là, on est là, ça fait peu. Et c'est nous qui allons faire vivre cette mosquée. Et c'est la première des choses. En permanence, à chaque salat, on est là dans notre masjid. Inch'Allah. On a bien vu que ce n'était pas quelque chose d'impossible. On l'a vu. Et que cette présence à la masjid, au sein de salat, va nous permettre justement d'échanger, va nous permettre d'avancer avec notre communauté, tout le monde, en se tenant dans la main, et bien on va essayer d'avancer. Inch'Allah. Le soir là, qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'était la première chose. La deuxième chose, c'est que dans n'importe quelle occasion, je n'oublie jamais mon identité première. Identité première, c'est que je suis musulman avant. Je suis musulman avant. Malgré le fait que, eh bien, à mon âge, là, je suis un peu rebelle. Un coq. Malgré tout. Peut-être. Malgré le fait que lorsque je marche là, on dirait que je marche de ressort, là. C'est vrai qu'il y a presque des épines sur le bras, et je rebondis presque sur terre. Vous savez, vous avez déjà vu cette démarche là. Malgré tout, je vais vous montrer qui je suis. Eh bien, affirmons-nous à travers l'islam. Là, je suis en train de m'affirmer, là. Et je recherche des repères. Qui suis-je? Affirmons-nous à travers l'islam. L'islam qui est un facteur d'épanouissement terrible, extra. Et on l'a vu à travers l'histoire. On l'a vu depuis le début. Je n'ai pas voulu vous donner d'autres exemples, parce qu'on a eu tellement d'exemples durant ces deux jours-là. Eh bien, c'est vrai. L'islam va nous permettre de nous épanouir. La dernière chose, c'est que vous avez vu, hein, le bon Molissa, ce parfum qui regarde un peu gravé à ce moussal là-bas, et bien ce sont des êtres humains comme nous. Sœur à la main, ce sont des êtres humains comme nous. ils mangent, boivent, nourrissent, ils disent parfois des bêtises, on a vu, hein, dans le fait. Ils plaisantent aussi. Hein? Sans la vie. Eh bien, avant aujourd'hui, avant ce rendez-vous des jeunes, on les voyait là-bas sur les musalla, parfois on entendait Allah Akbar, pour certains on entendait juste salam alaykoum, vous êtes la salat, toujours en retard, et tout pas. Eh bien, ce moulissable là, il faut essayer de l'attraper, la grippe. Il faut essayer d'être en contact régulier avec lui. Avec lui et avec la masjid. On va essayer de rester. Accrochons-nous à la masjid. Et avec celui, justement, qui est dans la masjid, ce moulissable. Pour que justement nous puissions créer entre nous un lien se basant sur Allah. Ça va me servir à moi. J'aurai des problèmes. Il y a des choses à gérer dans ma vie. Je le gère comme Allah il le veut. Pas comme Shaitan il le veut. D'accord, Inch'Allah, on va essayer de créer cette relation-là avec les alama, les molissables, justement, de notre pays. Essayons, pour ceux qui avaient encore ce regard-là, de changer de regard, changer de fusil d'épaule, et de se dire que ensemble, avec les molissables, ensemble, tous les jeunes ensemble, nous allons essayer d'avancer. Pour que justement, puisse scintiller cette communauté musulmane, puisse briller cette communauté musulmane. Inch'Allah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il était un peu plus sauf que deux ans, il y a l'ambiance, et c'était le thème qu'il a voulu, et c'était quelque chose de très important. C'est quelque chose d'extrêmement important, ce que je viens de dire, en trois mots, notre relation avec Allah. Et Allah, c'est mon seul camarade. Le seul camarade, c'est Allah. Dis, écoute ta main. Et tout le monde me tourne le dos. Quand tout le monde me tourne le dos, eh bien, lui, il m'entend. Lorsque je pleure dans la chambre, lorsque je n'ai plus de solution, eh bien, Allah, il est là. On n'oublie jamais. Et créons des contacts avec cet ami-là. Ça, c'est un ami extra. Deuxième chose, c'est l'insite. Troisième chose, la salat. Inch'Allah. Après, juste. Une chose. Comment est-ce qu'on va essayer de créer ce contact-là avec Allah? Comment on va, on a dit tout à l'heure, au tout début, en proposant des solutions. Il y a les vacances scolaires approchées. Comment est-ce qu'on peut, il y en a des jeunes qui me demandent, est-ce qu'on peut rester tous ensemble, dans un cadre, bien, et essayer d'apprendre l'islam, et essayer d'apprendre les bases de l'islam, et essayer de connaître et de reconnaître Allah. C'est justement ce qu'on va essayer de proposer. Après ce rendez-vous des jeunes-là, les vacances scolaires vont arriver en janvier, Inch'Allah, en décembre, Inch'Allah. Et qui est prêt? Qui veut, son âme et conscience, comme on dit, que dans ces vacances-là, je suis prêt à sacrifier quelque peu de mon temps pour justement sortir dans le chemin d'Allah. Ça, c'est un gros mot, parfois on ne comprend même pas. C'est parce qu'un gros mot, c'est qu'un chasseur, c'est nous. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire qu'on va être ensemble, on va rester dans la masjid, on va parler d'Allah, on va parler des choses importantes de notre vie, Inch'Allah. On ne prend pas tous les vacances, on veut quelques jours de ces vacances, mais Inch'Allah, vacances de décembre, janvier, Inch'Allah. Qui est prêt, on donne son nom et sa vérité, Inch'Allah, pour se lancer dans ce qu'on appelle Jamaat. Qui est prêt, Inch'Allah? Donc, 400 jeunes, moi j'ai très faim, moi j'ai envie d'aller prendre une petit déjeuner. Qui est prêt, Inch'Allah, et qu'on en termine avec ça, Inch'Allah? Qui est prêt, Inch'Allah? On donne son nom et sa ville. Combien de temps? Son nom et sa ville, Inch'Allah. Là, on a vu que ce n'était pas un gros mot, ce n'était pas une insulte, il y en a une foule, hein? Ce n'était pas une insulte que. Parle. Oui, mais le gars n'ira pas de nom, ça va s'échapper. Hein. Oui. Après, ce que je suis en train de dire là, c'était presque un gros mot que le sorcier chemin d'Allah. Là, on comprend qu'effectivement, entre nous, il y a peut-être quelque chose. On peut essayer de faire quelque chose. Il ne s'agit pas pour nous de devenir des grands bouffons. Il s'agit pour nous de sortir du chemin d'Allah pour connaître et reconnaître Allah. Pendant quelques jours entre nous, eh bien, on va essayer de sortir. Et on va essayer de voir qu'est-ce que Allah, il attend de moi. Vous savez pas, Inch'Allah. Vous savez pas.
Combien de temps? 10 jours.
10 jours, Inch'Allah. Après. Ça, c'est comment? Ça, c'est bon. Sando, cet André, avec qui la commandeur, Zali, le Robin, le Habibullah. Regardez un bonhomme, hein? J'en parle. Après, gardez quoi côté nous. C'est quoi des côtés du voisin, Inch'Allah. Après, il y a encore plein de choses. Après, on va prendre un petit déjeuner. Après, on va pouvoir commencer à réunir ses affaires. À s'asseoir quelque peu pour revenir, Inch'Allah, ici, conférence. À partir de 18h30, à partir de 8h30, on essaye d'être là, Inch'Allah. Inch'Allah.